France Culture. Signe des temps. Marc Wetzmann.
Et bonjour à tous. Selon une étude récente de l'Institut Montaigne, 33% des jeunes entre 16 et 30 ans seraient attirés par la droite radicale, en particulier ceux qui, parmi les peu diplômés, se sentent bien insérés socialement, satisfaits de leur vie et de leur emploi. Une autre étude, publiée cette fois par le Figaro, indique que le nombre d'adultes se préparant au baptême de l'Église catholique aurait augmenté en France de 30% en 2024 par rapport à 2023, une année qui voyait déjà une augmentation de 28% des catéchumènes par rapport à 2022. En parallèle encore, apprécié ceux d'Éric Zemmour voici quelques années, les livres de Philippe de Villiers ou de Jordan Bardella sont des best-sellers assurés pour leurs éditeurs. Et tout cela avec en toile de fond la crise des notions d'expertise, de science et de vérité, de l'université également. Tout se passe comme si une bonne part de la génération Z en quête de sens se détournait de tout ce qui ressemble à un savoir institué. La guerre culturelle serait-elle en passe d'être gagnée par une droite neuve boostée par le populisme mondial et les réseaux sociaux? Ou bien assiste-t-on au contraire au retour d'un courant très ancien? C'est ce que suggère en tout cas le livre Le Roi, une autre histoire de la droite de Baptiste Roger Lacan, qui remet en perspective historique ce présent qui nous semble inédit. Et c'est de ce livre qu'on va parler aujourd'hui. Baptiste Roger Lacan, bonjour.
Bonjour Margretin.
Vous êtes chargé de recherche à la Fondation Napoléon, enseignant à l'Institut catholique de Paris et à Sciences Po Paris. Vous avez collaboré au Grand Continent aussi pendant un certain temps. Et vous publiez votre premier livre, donc Le Roi, une autre histoire de la droite. Alors je viens de le dire, cette introduction extrêmement contemporaine qui sert à introduire un livre dont l'essentiel se déroule entre 1880 et les années 30, mais dont les questions qui sont abordées, à savoir le statut de la science, les guerres culturelles dans les institutions et dans l'éducation, ce qui est scientifique ou ce qui ne l'est pas, l'importance de la culture populaire, l'idéologisation des débats historiques sonne étonnamment contemporain. Je me suis demandé si vous, pendant toute la lecture, si vous l'aviez voulu ou si c'était un hasard, si vous avez choisi ce sujet et cette période par hasard ou pas.
Alors, on choisit jamais un sujet complètement par hasard, mais c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler sur ces questions, c'était il y a longtemps, le Front National, parce qu'il s'appelait pas encore le Rassemblement National à ce moment-là, commençait seulement à remonter dans les sondages après l'élection calamiteuse de 2007. J'ai commencé à travailler là-dessus en 2012-2013, il y a très longtemps, sur la question du légitimisme à l'époque. Mais c'est vrai que progressivement, à mesure que j'ai creusé, j'ai évidemment vu des résonances contemporaine, j'ai vu des thèmes que je croyais vraiment réservés à mes recherches commencer à réémerger, des auteurs aussi. J'étais très frappé au cours des dernières années de voir par exemple une réédition assez problématique des œuvres de Charles Maurras dans une maison d'édition très très mainstream. C'est un exemple parmi d'autres en fait d'une résurgence de thèmes, d'ouvrages, d'auteurs qui ont été extrêmement populaires sous la Troisième République et qui sont revenus progressivement dans nos années 2010 et puis à nouveau dans les années 2020. Donc en fait, l'écho, le jeu de parallèle, c'est imposé à moi, en un sens.
Alors c'est un livre d'histoire à la fois politique et surtout culturelle en réalité. Vous racontez comment entre 1880, dans les autres les années 1870-80, en gros, c'est-à-dire au moment où la Troisième République s'installe définitivement jusqu'aux années 30, un courant qui est un courant royaliste et anti-moderne va progressivement gagner en importance et se rapprocher à partir de la fin des années 20 et des années 30 du fascisme, avec des relations à la fois proches et relativement distantes. On va voir ça en détail. Mais alors le premier paradoxe, c'est que au moment où la Troisième République s'est installée, alors que l'espoir d'une restauration politique marque le pas, il y a plus de possibilité de revenir à la monarchie, la culture contre-révolutionnaire connaît un nouvel élan, comme vous l'écrivez, et va peu à peu s'imposer comme une véritable langue commune entre les années 1870 et la Seconde Guerre mondiale. Et vous citez au début de votre livre une Philippe Ariès, le grand historien, dans un texte autobiographique, Un enfant découvre l'histoire, qui raconte comment ses parents étaient des royalistes ralliés sans réserve à l'Action française, fanatiques, mais nourris d'une imagerie antérieure à la construction doctrinale de Maurras. Et Ariès écrit « C'est un tissu d'anecdotes souvent légendaires sur les rois, les prétendants, les saints de la famille royale, Saint Louis, Louis XVI, les martyrs de la Révolution, etc. etc. » Et le point de départ de votre livre, c'est que cette imagerie antérieure, populaire, avant de devenir savante, a permis, en tout cas, est la toile de fond grâce à laquelle Maurras va pouvoir développer ses idées par la suite.
Oui, c'est une conviction très profonde. En fait, Philippe Ariès, pour moi, ça a été vraiment une sorte de guide pendant l'écriture de ce livre. Alors, il n'est pas arrivé tout de suite. En fait, j'ai découvert ce texte, ça faisait un an et demi que j'étais déjà dans mes recherches et tout, mais j'avais un énorme matériau, beaucoup de sources, beaucoup d'ouvrages, de textes, d'articles que j'avais repérés, qui traçaient un peu les coordonnées ou le contour de cette culture contre-révolutionnaire sur laquelle je voulais travailler, mais j'arrivais pas à trouver un angle. Je comprenais pas exactement comment ce que ça disait. Et puis un peu par hasard, j'ai lu ce livre de Philippe Ariès, qui est, donc vous l'avez dit, qui vient d'une famille contre-révolutionnaire, royaliste, maurrassienne même, avec certains des membres de sa famille qui ont même occupé des fonctions importantes au sein de l'Action française en province. Lui-même, dans sa jeunesse, a été membre de l'Action française. Il a jamais complètement renié ses idées, il s'est éloigné du mouvement, mais il n'a jamais renié la contre-révolution dans l'ordre politique. Mais donc, dans cet essai autobiographique, qui est un des premiers textes qu'il a écrit, il cherche un petit peu à faire sens de cette culture, de la manière dont elle l'a amené à l'histoire aussi, puisque les deux sont très corrélés. Et je pense qu'il a cette intuition très juste, qu'il développe pas vraiment, il parle juste de cette imagerie antérieure à la construction doctrinale de Maurras. Mais en fait, moi, cette petite phrase-là, elle m'a permis de débloquer beaucoup de choses. Elle m'a permis déjà, en considérant mes sources, de me rendre compte qu'effectivement, avant l'émergence, dans les années 1900-1910, d'une nébuleuse d'Action française qui prend une importance démesurée, en fait, dans ce monde contre-révolutionnaire, avant ça, il y a toute une multiplicité de textes, dont une grande partie ont pour vocation d'être lus par des publics qui ne sont pas des publics élitistes ou élitaires. C'est notamment trois groupes qui sont ciblés.
Alors, on va y venir. Alors, d'abord, avant d'arriver sur les genres éditoriaux, vous parlez du courant vraiment populaire et des légendes qui circulent, notamment autour de Louis XVII, enterré dans une fosse commune, dont la dépouille n'a jamais été retrouvée, et dont l'idée qui va revenir ressurgit régulièrement pendant les crises sociales, pendant une bonne partie du XIXe siècle, toute la première moitié du XIXe siècle. Vous dites qu'on recense une quarantaine de faux Louis XVII, dont les plus célèbres seront un baron de Richemont mort en 1845, et Karl Wilhelm Nonndorf, qui est le plus célèbre des faux Louis XVII, qui sera même accueilli par Guillaume Ier, le roi des Pays-Bas, et qui disparaîtra en Hollande en 1853, mais ses descendants vont maintenir la foi comme une espèce de messie disparu, et jusque dans les années 1880, le non-dorfisme, vous dites, que va connaître de vraies poussées. Ça a à la fois une utilisation politique du non-dorfisme pour les légitimistes, mais en même temps, ça correspond à une croyance populaire. Et certains écrivains, comme le comte de Lille, Villiers de l'Isle-Adam, Léon Blois surtout, vont entretenir le mythe de Karl Wilhelm Nonndorf comme un Louis XVII anonyme.
Mais le mythe de la survivance, ouais, qui est une sorte de... Alors, je pense qu'il dit plusieurs choses, qui dit des choses sur le royalisme populaire, sur la manière, sur le désir d'incarnation. Ça, c'est notamment des thèses qui ont été aussi développées par Yves-Marie Berset, plutôt pour l'époque moderne, mais qui montrent comment, dans des périodes de crise, on voit souvent des figures de prétendants ou de rois morts, d'imposteurs, en fait, mais qui veulent se faire passer pour des rois disparus. Émerger. Le cas le plus connu, c'est Sébastien du Portugal, qui a donné ce courant qu'on appelle le sébastianisme, qui est presque une sorte de musique de fond de la culture politique portugaise jusque dans les années 1970. Hein, même Salazar a joué un peu de ce culte, ce mythe sébastianiste, mais qu'on retrouve en France avec la figure de Louis XVII au XIXe siècle. Et avec des phénomènes très étranges, c'est-à-dire qu'en travaillant là-dessus, alors j'en parle pas mal dans le livre, j'en ai encore plus parlé dans d'autres textes ailleurs, on se rend compte que ces faux Louis XVII sont à la croisée de plein de mondes extrêmement différents. Ils sont à la fois portés par des aristocrates, souvent des légitimistes extrêmement intransigeant qui cherche en fait dans ses feux Louis XVII la possibilité d'une restauration parfaite de la chaîne des temps, c'est-à-dire qu'en fait en trouvant Louis XVII et ses descendants, on abolirait presque la rupture de l'exécution de Louis XVI et Marie-Antoinette. On trouve des gens un peu de sac et de corde, pour le dire simplement des escrocs qui voient une manière de se faire de l'argent, ça, il y a beaucoup d'affaires en fait comme ça. Et puis il y a aussi beaucoup de cas de croyances très populaires dans ces faux Louis XVII. J'ai trouvé des cas partout, vraiment partout en France, de gens qui, par hasard, rencontrent ces faux Louis XVII et y croient. Et ce qui est très étrange, pour le coup c'est la vraie particularité de Nonnendorf, c'est que sa descendance, pendant quelques années, n'en fait pas grand-chose, sous le Second Empire, parce qu'il n'y a pas vraiment d'espace politique à ce moment-là, mais à partir du moment où le Second Empire s'effondre, on voit les fils et les petits-fils de Nonnendorf réinvestir cette figure et se présenter comme une alternative aux prétendants Orléans, aux prétendants légitimistes, orléanistes et bonapartistes, comme étant en fait les prétendants légitimes, et eux vont continuer jusque dans les années même 1910 en fait à cultiver ça, au point où l'affaire finit par être discutée devant le Sénat, puisqu'ils demandent à être reconnus dans leur... c'est absurde, mais ils demandent à un Sénat républicain de les reconnaître dans leur nature de prince français. Et évidemment, le Sénat discute l'affaire en séance, rejette leur motion en disant qu'ils ne sont pas compétents, mais l'affaire refait la une en 1910-1911.
Alors, j'ai pensé en tout cas en lisant ça, j'ai pensé un peu à Faulkner et à cette culture des perdants, en fait, qui entretiennent un mythe de la victoire à revenir, à cette différence près que, en France, il y a vraiment la figure du roi, ce qui n'y a pas chez Faulkner, et qu'on retrouve également dans la littérature populaire. Vous citez Dumas, et très étonnamment, parce que Dumas n'est pas un royaliste, il est plutôt pour la Révolution, mais effectivement, dans la littérature populaire, dans Les Trois Mousquetaires, dans Le Chevalier de Maison Rouge, dans Les Mémoires d'un médecin avec le comte de Cagliostro, on a cette atmosphère de gens étranges et de complots autour de la Révolution, qui est presque de l'ésotérisme, qui joue sur tous les ressorts du suspense et de la littérature populaire, mais qui permet d'entretenir, sur fond d'une vraie crise de légitimité dans le pays, qui permet d'entretenir une sorte de nostalgie pour l'Ancien Régime.
Complètement. En fait, Dumas, il est intéressant à deux titres. D'abord, il est passionnant parce que c'est pas tout à fait le père du roman historique en France, mais c'est celui qui le réinvente, qui le reconfigure complètement dans les années 1840. Et donc, même si lui écrit plutôt d'un lieu favorable à la Révolution, ensuite, il y a toute une pléthore de romanciers historiques qui vont s'inspirer de Dumas, mais eux, dans une perspective résolument contre-révolutionnaire. Par exemple, Ponson du Terrail, mais à l'étranger, on peut penser à la baronne Orsi. Enfin, c'est vraiment, Dumas est une matrice. Puis la deuxième chose qui est intéressante, c'est que Dumas écrit d'un lieu favorable à la Révolution. C'est quelqu'un qui est proche de Louis-Philippe avant de se rapprocher de la République. Il a une trajectoire qui l'emmène vraiment vers la gauche. Mais je pense pour plein de raisons, il est alors d'une part fasciné par l'aristocratie, parce que lui en est en partie. Il est sa mère était fille d'aubergiste, son père était métis. Fils d'un noble et d'une esclave, et donc il y a et Dumas est obsédé par son lignage, il y a dans ce lignage toutes les Frances, et je pense que c'est quelque chose d'ailleurs qui travaille beaucoup Dumas, cette idée qu'il est l'héritier de tous ces mondes-là, et que sa vie n'a été rendue possible que par la Révolution, mais en même temps, il y a une fascination pour l'Ancien Régime. Et quand on regarde les romans historiques de Dumas, on se rend compte que la quasi-totalité de ses héros sont des aristocrates. Mmh. Avec une fascination, pour une idée de l'aristocratie qui en fait presque le principe du protagoniste aristocratique, c'est-à-dire qu'il est, il est paré de toutes les vertus, il incarne un âge d'or, il incarne d'ailleurs un âge d'or qui est toujours menacé. C'est Athos dans le Vicomte de Bragelonne qui insulte Louis XIV parce qu'il incarne le monde d'avant et que Louis XIV est en train de dégrader tout ce que Athos juge bon et grand dans la noblesse française. C'est le comte de Charny dans Les Mémoires d'un médecin. Donc il y a cette fascination pour la noblesse, et puis Dumas est un romancier, Dumas est toujours à court d'argent, donc Dumas doit écrire beaucoup d'histoires, donc il est toujours à la recherche de bonnes histoires, et parfois il n'est pas très regardant, notamment dans Les Mémoires d'un médecin, où en fait Dumas va être le principal conservateur et perpétuateur au XIXe siècle de l'une des thèses contre-révolutionnaires les plus radicales à émerger à la fin du XVIIIe siècle, qui sont les thèses de l'abbé Baruel sur l'influence des Illuminés de Bavière, de la franc-maçonnerie en fait, sur la Révolution française. Exactement. Et en fait, ça, c'est les livres de Baruel, ils disparaissent complètement au début des années 1820, ils sont plus réédités, plus personne ne les lit, sauf Dumas et Georges Sand qui vont découvrir ses thèses, je pense, au hasard de lecture à la Bibliothèque nationale, c'est toujours pas très clair. Et Dumas trouve ça génial. Alors, il est en partie convaincu pour des raisons qui tiennent à l'histoire du mouvement libéral au milieu du XIXe siècle, c'est-à-dire que les mouvements Jeune Italie, la charbonnerie, tout ça fait qu'en fait, quand on est libéral au milieu du XIXe siècle, on a tendance à croire au mythe de la société secrète. C'est la première chose. Oui. Et puis la deuxième, c'est qu'il trouve que c'est une histoire géniale. Et il trouve ça très convaincant, en fait, l'idée que les Illuminés de Bavière aient conspiré contre la Révolution. Et donc, c'est le centre des mémoires d'un médecin. Et donc, c'est lui qui va maintenir ses idées, va transmettre ses idées, qui vont ensuite repartir à nouveau à la fin du XIXe, sous la plume d'Édouard Drummond, qui va vraiment, pour le coup, réinstrumentaliser ça dans une perspective explicitement anti-républicaine.
Et antisémite.
Et antisémite.
Alors, à côté de ces croyances populaires et de ces romans populaires, il y a un genre qui se développe, qui est le genre des mémoires des anciens, de gens qui sont censés avoir approché les victimes de la Révolution. Quelquefois, ce sont des vraies mémoires, quelquefois, ce sont des fausses. Honoré de Balzac, on a écrit au moins une. C'est un genre qui va être très populaire et qui va devenir une des pierres de touche des éditeurs de l'époque. Fayard notamment commence à écrire des choses là, enfin, à publier beaucoup de mémoires, et ça va accompagner l'essor d'un nouveau type d'histoire.
Complètement. C'est en fait les mémoires connaissent une première phase, une période faste, hein, sous la Restauration, un moment où les gens ont besoin de comprendre, donc tout le monde cherche à avoir des témoignages pour donner du sens à ce qui vient de se passer. Curieusement, au début des années 1880, il y a une deuxième période faste pour les mémoires où plusieurs éditeurs, d'abord Plon et ensuite Fayard, qui va en fait mettre en place des collections populaires à 1 franc de mémoire, donc en fait augmenter très largement le public des mémoires en le limitant pas seulement, pour le dire simplement, à un public bourgeois aristocratique, qui était le public cible originel. Et dans ces éditions de mémoire, on va voir notamment un appareil, que je n'appellerais pas d'appareil critique, mais la plupart, notamment chez Fayard, ses mémoires sont préfacées et avec des appareils de notes qui insistent beaucoup sur l'anecdote, sur ce qu'on appelle en fait la petite histoire. Et donc il y a un double phénomène. D'un côté, la transmission d'une culture qui va chercher à susciter l'empathie chez le lecteur, c'est-à-dire qu'en racontant l'histoire de la Révolution du point de vue de ses victimes, et de victimes qui se présentent évidemment pas sous leur visage le plus politisé. Donc en fait, ce sont des victimes innocentes qui sont sacrifiées par le bourreau ou par un peuple barbare manipulé par des révolutionnaires assoiffés de sang. On va voir donc ces textes qui cherchent à susciter l'empathie, et autour de ça, un appareil de notes, un appareil critique qui insiste sur l'anecdote, insiste sur la petite histoire, insiste sur le petit bout de la lorgnette, mais qui participe en fait d'une politisation à bas bruit.
On va y venir à la petite histoire, parce que alors donc c'est effectivement quelques exemples que vous donnez. Enfin, Fayard qui est très présent sur le marché de la vulgarisation scientifique et du roman populaire à partir des années 1880, lance une collection qui s'appelle la Moderne Collection Historique et Anecdotique. Et donc ça c'est un mélange effectivement de, alors il y a les souvenirs de Léonard qui est censé avoir été le coiffeur de Marie-Antoinette. Il y a à côté de ça, il y a la hache en 1885 qui revendique plutôt l'héritage des Chouans de Balzac et du Chevalier des Touches et qui est franchement gore sur la terreur révolutionnaire. Et donc, il y a la petite histoire, c'est-à-dire que peu à peu, ces ouvrages se parent d'un vernis scientifique grâce à l'appareil de notes dont vous venez de parler, et la petite histoire qui est inventée par quelqu'un qui se fait appeler G. Le Nôtre, G. de la lettre, dont le vrai nom est Louis-Léon Théodore Gosselin, qui va publier des centaines de chroniques dans le temps entre 1899 et 1935, des dizaines d'ouvrages, des pièces de théâtre, dont on dit qu'il a influencé des historiens du XXe siècle comme André Castelot et Alain Decaux. Il est le premier historien vraiment très grand public. Et son idée de petite histoire, il s'inspire de Balzac, en fait. Balzac, dans Les Illusions perdues, disait il y a deux histoires, l'histoire officielle menteuse qu'on enseigne et l'histoire secrète où sont les véritables causes des événements. Et cette histoire secrète, c'est à la fois l'histoire des complots et, dans le cas de Le Nôtre, l'histoire des petits détails littéralement fétichistes, parce qu'il collectionne aussi des objets censés avoir appartenu à Marie-Antoinette ou à je ne sais qui. Et ces livres vont être des succès de librairie énormes. En se basant aussi sur Dumas, le vrai Chevalier de Maison Rouge est censé être un livre qui raconte la véritable histoire qu'a raconté Dumas de façon romancée.
Complètement. C'est un type que, alors c'est même aujourd'hui encore une inspiration qui est revendiquée par exemple par Stéphane Bern ou Laurent Deutsch. Donc en fait, la petite histoire ne disparaît jamais complètement. Ce qui est passionnant avec Le Nôtre, bon, d'abord, c'est qu'il invente un genre. Au début des années 1890, il va publier en 1893 en fait un premier ouvrage sur la guillotine qui raconte du point de vue de leurs derniers jours en fait l'histoire des deux condamnés à mort, notamment à la conciergerie, avec un luxe de détails qu'il construit de deux manières. D'une part, par une fréquentation assidue des archives, parce que c'est vrai, en fait, Le Nôtre cite énormément, va aux archives, et de ce point de vue-là, est très précis. Je suis allé vérifier dans des fonds, parce que on a accès à toutes ces sources, donc on voit toutes les notes qu'il a prises, on peut aller voir dans les fonds les cotes correspondantes. Effectivement, c'est une prise de notes extrêmement précise, donc il n'invente rien de ce côté-là. Donc il y a ce travail de source qui est fait. Et puis, en parallèle, il comble les trous avec son imagination. Il vient rajouter un surcroît d'informations pour donner une chair à l'histoire qui aboutit à une forme de processus de reconstitution. Pour moi, c'est un des premiers reconstitutionnistes, un peu comme les gens aujourd'hui qui mettent des uniformes et vont reconstituer des batailles du Premier Empire. Il y a ce même instinct, ce même goût de l'histoire pour la revivre. Mais ce qui est frappant avec Le Nôtre,
c'est entièrement idéologisé en même temps.
Ben oui, mais en fait, ça ne se voit pas. C'est contrairement à d'autres historiens dont on parlera peut-être après. Le Nôtre n'a quasiment jamais pris parti ouvertement contre la République. Cette référence à Balzac, elle est symptomatique. Quand on sait lire entre les lignes, on voit que c'est très contre-révolutionnaire comme influence. Mais en fait, à part son journal qui a été publié après sa mort, dans lequel il y a quelques remarques très acerbes sur la République parlementaire, officiellement, Le Nôtre, c'est une figure de notable des lettres parisiennes. Il écrit dans Le Temps, qui n'est pas un journal, c'est un journal de droite, c'est le grand journal des élites conservatrices de la Troisième, mais ce n'est pas un journal de tradition royaliste ou illibérale. Donc il a cette allure plus lisse que d'autres figures, et en même temps, quand on le lit,
c'est une figure de la guerre culturelle qui est en train de naître. C'est-à-dire que, d'une part, la petite histoire, ce qu'on appelle la petite histoire, va être extrêmement mal reçue par les historiens universitaires spécialistes de la Révolution, tant par ses méthodes que par son orientation politique plus ou moins sous-jacente. D'autre part, il y a un véritable enjeu, l'école obligatoire fait que la mémoire de la Révolution et la notion même d'histoire et de science devient un véritable enjeu politique dans ces années-là. Et d'autre part, la petite histoire va trouver des soutiens à l'Académie française.
Bien sûr.
Beaucoup. Auprès de quelqu'un qui s'appelle Pierre de Nolhac, qui va s'auto-instituer le sauveur du château de Versailles, où plus personne ne va, mais lui va revivifier Versailles et en faire une espèce de théâtre, en fait, de la petite histoire, toujours dans le même optique. Donc on a d'un côté l'université, et de l'autre côté l'Académie française, et les historiens comme de Nolhac ou comme Le Nôtre, qui vont se disputer sur la question de la mémoire et sur la question de la science historique.
Complètement. En fait, à partir des années 1880, le régime républicain se stabilise. On dit que la République a été conquise par les républicains, qui finissent d'ailleurs par donner une interprétation très parlementariste des lois constitutionnelles de 1875. Et progressivement, les républicains vont conquérir certaines institutions, notamment l'université. Progressivement, c'est Gérard Noiriel qui montre ça très bien. On voit que l'université se républicanise, qu'elle joue une fonction d'ailleurs dans la constitution d'un savoir républicain et notamment d'un savoir historique républicain, ce qui vient en parallèle du centenaire de la Révolution française qui arrive en 1889, qui est une célébration importante dans laquelle le régime revendique cette filiation, revendique sa généalogie révolutionnaire. Et donc face à cette hégémonie institutionnelle, on voit des groupes s'organiser pour faire survivre en fait des poches de contre-révolution. Donc il y a l'Académie française qui est vraiment un bastion contre-révolutionnaire sous la Troisième République, et le château de Versailles qui pour moi était peut-être l'exemple le plus intéressant à étudier, puisque ce Pierre de Nolhac va réinvestir le musée du château de Versailles, en faire un conservatoire de l'ancien régime, présenté comme le symbole de la douceur de vivre, d'une sorte de monde de luxe, de volupté qui aurait été détruit, balayé par une révolution française barbare et sanglante, et qui va, en plus de ça, lui publie énormément de livres, il est assez proche, il évolue dans les mêmes cercles que le nôtre, etc. Donc il y a ce travail éditorial qui vient soutenir Versailles. Ce qui est intéressant, c'est que La République, c'est utiliser certains de ces bastions contre-révolutionnaires, oui. Notamment Versailles, qui est instrumentalisé par la République dans les années 1890-1900, à un moment où...
Parce que le pays est entouré de monarchies, en fait.
Bien sûr, mais il y a trois républiques en Europe, le Portugal, la Suisse et la France.
Il faut utiliser cette aura...
Il faut tisser des alliances, en fait. Voilà. Et pour tisser des alliances, il faut réussir à casser le système bismarckien qui a été construit dans les années 70-80, notamment avec comme ligne rhétorique de dire « Regardez, la France est à nouveau une république ». Souvenez-vous, la dernière fois qu'ils ont été une république, l'Europe a été mise à feu et à sang. Il faut les isoler, il faut garder un cordon sanitaire autour de l'Europe. À la fin des années 1880, Bismarck disparaît, perd le pouvoir. Et donc, il y a une ouverture. Dans les années 1890, tout d'un coup, la France républicaine commence à essayer de reconstruire un système d'alliance pour se prémunir contre un éventuel conflit, notamment face à l'Allemagne. Et c'est là que Versailles devient extrêmement utile, puisque toutes les têtes couronnées qui passent en France sont accueillies non pas à Paris, enfin, elle passe par Paris, mais le cœur, le sommet de la réception se passe toujours à Versailles. En fait, la République montre à ses chefs d'État étrangers, à ses têtes couronnées étrangères, qu'elle est capable de se mettre dans les meubles de l'Ancien Régime et que de ce point de vue-là, en tout cas, la République a changé. Paradoxalement, et de manière logiquement, les chefs d'État républicains qui viennent en France, eux, sont reçus à Paris et ne viennent pas à Versailles. Donc il y a une vraie séparation.
Mais alors, ce qui est vraiment intéressant, ce qui résonne vraiment beaucoup aujourd'hui dans cette guerre culturelle, c'est les tenants de la petite histoire sont les tenants d'une histoire vraiment populaire qui se part de scientisme, mais qui ne l'est pas vraiment. Et Brasillach dira plus tard, dans les années 30, dans Je suis partout, il fera un éloge de l'ignorance au nom de cette petite histoire. Hein, quand il dit, j'ai trouvé la citation de votre livre, « Les hommes des croisades, j'en suis sûr, ne savaient pas lire, et pourtant ils participaient à une culture autrement grande et rayonnante que les pauvres êtres d'aujourd'hui. » C'est-à-dire, l'ignorance ouvre la voie à la grandeur, alors que la culture peut être un frein. Et il y a ce débat entre l'université cultivée républicaine laïque et scientifique, en tout cas d'une science qui est en train de se créer, puisque là, c'est les années où la science historique est aussi en train de se créer. Et de l'autre côté, une histoire qui se veut scientifique parce que populaire. Comme on le voit aujourd'hui avec les influenceurs et les podcasteurs, qui se revendiquent d'un savoir précisément parce qu'ils ne sont pas experts. C'est sous-tendu par un paradoxe, qui est le paradoxe des royalistes. Il faut faire de l'histoire pour contrer l'idée qu'il existe une histoire. C'est-à-dire que l'idée, c'est que on peut revenir en arrière.
Complètement. Mais il y a un peu de... Il y a d'une part une question méthodologique, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est frappant avec cette petite histoire, c'est que les prémices sont les mêmes que ce qui se passe à l'université. Tout le monde va aux archives, tout le monde regarde des documents. L'énorme différence, c'est que nos petits historiens manquent une étape qui est clé dans la méthode historique, qui est en train de se mettre en place à ce moment-là, qui est la critique documentaire. Évidemment, tous les historiens vont voir des documents, mais la deuxième étape, c'est qu'une fois qu'on a des documents, c'est qu'on les critique, on ne les prend pas systématiquement pour argent comptant. On contextualise, on analyse, on croise, et eux, ils font pas ça, en fait. Le nôtre, pour lui, le document est un morceau d'histoire, est un morceau littéralement du passé, et en juxtaposant des morceaux de passé, on peut, presque par une opération magique, ressusciter le passé. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, ce qu'on va voir, c'est que dans les années 1900, 1910, et surtout dans les années 1920, on va voir émerger une histoire autour de l'Action française, qui, elle,
voilà,
pour le coup...
C'est là où je voulais en venir.
Exactement.
Et donc là, le grand changement qu'introduit Maurras dans ce débat, à partir de sa lecture d'Hippolyte Taine, donc est un des grands contre-révolutionnaires, ça va être de dire qu'en fait, on ne peut plus revenir, on ne peut pas revenir au passé, mais on peut... En fait, l'histoire, c'est l'étude des lois des nations qui ne changent pas. Et donc, il y a quelque chose que le temps n'atteint pas, c'est l'identité profonde du pays, le fameux pays réel contre le pays légal. Et donc, on va trouver le roi n'est plus le roi du passé, mais c'est le roi qui sera à même d'exprimer le mieux les tendances nationalistes profondes du pays. Et c'est la grande invention de Maurras, c'est cet alliage du nationalisme et du royalisme qui normalement ne vont pas ensemble.
Non, mais en fait, qui au début, d'ailleurs, sont dans les années 1880-90, le nationalisme vient au contraire complètement reconfigurer le champ politique à droite, et en fait, c'est plutôt un moment où le royalisme décline extrêmement rapidement, la contre-révolution politique, on le disait au début, est atomisé, et c'est toute la singularité de l'opération maurrassienne, c'est d'arriver à, d'un côté, proposer une hypothèse nationaliste, et faire une proposition nationaliste qui vient s'enraciner, réinventer un héritage contre-révolutionnaire dont il essaie de montrer rétrospectivement qu'en fait la contre-révolution aurait toujours été nationaliste parce que un nationaliste cohérent ne peut être que monarchiste dans son esprit parce que les rois ayant construit la France, eh bien, si on est nationaliste, on est pour ceux qui ont construit la France. Donc on est pour l'idée de restaurer la monarchie. Et là, il y a deux choses qui vont s'exprimer. D'une part, il y a cette idée qu'il est possible de renverser la décadence, cette idée qui est déjà très présente chez Taine, et que la restauration de la monarchie serait la seule manière, en passant par les institutions, d'inverser, de renverser le déclin de la France qui aurait commencé en 1789. C'est la première chose. Et la deuxième, il y a une obsession historiciste, c'est-à-dire l'idée que les lois de l'histoire ne demandent qu'à être décodées, et que le vrai travail de l'historien, c'est pas du tout d'identifier les changements et les mutations, c'est d'identifier la permanence. Et qu'en fait, en maîtrisant cette permanence, on identifiera le moment décisif pour agir. Et ça vient construire, au départ, évidemment, le magistère intellectuel de Maurras, et puis surtout, dans les années 20, ça va, au moment où l'image de Maurras commence à être un peu fragilisée, notamment voire très abîmée auprès du public catholique, après l'excommunication, la condamnation de l'Action française et l'excommunication de ses chefs, ça va aussi construire le magistère d'autres figures proches de Maurras, comme Jacques Bainville, comme Pierre Gaxot, qui sont ultra dominants dans le champ médiatique et historique dans l'entre-deux-guerres. Et qui,
Pierre Gaxot, il faut en dire deux mots, et il faut dire deux mots de Fayard, parce que Fayard joue un rôle stratégique là-dedans.
Fondamental.
Il publie des livres, c'est eux qui publient Louis d'Imier aussi, non?
Oui, tout à fait.
Les origines de la France contemporaine, qui est une histoire de la contre-révolution, qui lie complètement histoire et contre-révolution, et qui est un tabac de librairie, qui est un vrai succès de librairie. Et qui justifie aussi, il me semble, la violence, enfin, la possibilité de la violence qui va jouer un rôle dans le 6 février, dans les émeutes du 6 février 34 de l'extrême droite. Et puis il y a Pierre Gaxot, effectivement, que Fayard nomme à la tête de Candide, un des grands journaux qui deviendra l'un des porte-voix du vrai fascisme français et qui est totalement antisémite pour le coup, et puis plus tard il y a l'histoire de France de Jacques Bainville qui est au lieu là aussi un phénomène éditorial qui ne s'est jamais démenti. Vous dites que le livre s'est tiré à 70 000 exemplaires en 24 et à 300 000 en 1970.
C'est colossal. Mais c'est ce qui est passionnant.
Tout ça est chez Fayard.
Alors
Candide, mémorielle
complètement.
Fayard,
en fait, Fayard joue un rôle passionnant. C'est une maison d'édition donc historiquement conservatrice, avec des proximités. Artem Fayard est assez proche de Léon Daudet. Il est proche de Pierre Gaxot pour des raisons familiales. Et au début des années 1920, il cherche à s'ouvrir à de nouveaux publics. Et donc, il va, en 1924, confier à Gaxot, qui à ce moment-là est un jeune homme, il a 29 ans. Il fait partie, en fait, de la deuxième génération d'Action française. Contrairement à la plupart des hommes de cette deuxième génération, il n'a pas été mobilisé pendant la Première Guerre mondiale parce qu'il avait une tuberculose osseuse. Donc, il a été, en fait, le secrétaire nocturne de Maurras pendant la Première Guerre mondiale. 1929, c'est un jeune prof d'histoire qui veut quitter son métier. Et donc, Fayard lui confie Candide, qui vient jamais à proprement parler fasciste. Candide reste maison commune de toutes les extrêmes droites.
C'est plus tard, c'est Je suis partout.
C'est Je suis partout, qui est aussi fondé par
Fayard. Et que Gaxot va diriger.
Et va diriger, et qui là va être au cœur de la dérive fasciste dans les années 30 de tout un ensemble de jeunes maurrassiens dont Gaxot va être le mentor. Et donc Gaxot va jouer un rôle double, en fait, puisque ça va être à la fois être un intermédiaire, un homme double, c'est-à-dire à la fois quelqu'un qui publie et quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui devient prescripteur dans le goût historique, si je puis dire, à droite et à l'extrême droite, et qui va construire cette collection des grandes études historiques, dont le grand lancement va être l'Histoire de France de Jacques Bainville, qui est un immense succès de librairie en 1924, et qui va être suivi ensuite, dans les années qui suivent, par toute une série de titres qui vont avoir des succès énormes, dont la Révolution française de Gaxot en 28, qui vont imposer ce qu'on a appelé l'historiographie capétienne. C'est René Grousset, un historien belge, qui a qualifié ce courant historiographique de cette manière, qui, dans le champ médiatique et politique dans l'entre-deux-guerres, va avoir un rôle colossal à droite, en fait.
La vulgate historique. Dans l'opinion populaire.
Et c'est la maison commune intellectuelle de toutes les droites. C'est-à-dire qu'en fait, ça devient la vulgate, c'est le nouveau relais de l'influence de l'Action française dans l'entre-deux-guerres, passe moins par le quotidien et par l'œuvre de Maurras elle-même que par la production historiographique qui est qui sort de la nébuleuse maurassienne.
Et c'est la victoire des historiens de la petite histoire contre la République et contre l'université d'une certaine façon. Mais certains sont vraiment historiens. Pour le
Alors, bah, même quelqu'un comme Gaxot a une formation d'historien. Il est agrégé. Il s'arrête au milieu de sa thèse. Mais enfin, c'est quelqu'un qui est passé par l'école normale supérieure, qui maîtrise, disons, les règles de la méthode historique. Alors, je dirais pas que c'est un triomphe de la petite histoire parce que ces historiens ne sont pas exactement des petits historiens. Ouais. Ils participent tous de la même nébuleuse contre-révolutionnaire. À la mort de Lenôtre, l'Action française va lui rendre un hommage vibrant. Mais quand on regarde Gaxot ou Bainville ou n'importe quel autre des auteurs des grandes études historiques, on voit que ce sont des livres qui sont beaucoup plus pensés comme des essais de synthèse historique, qui défendent des thèses très claires, sans jamais d'ailleurs les exprimer ouvertement. Il n'y a pas une préface ou une introduction au début qui dit « voilà mon idée ». Mais en fait, on les lit et la thèse surgit. Donc, pour Gaxot, c'est l'idée que la Révolution française a été provoquée par des forces étrangères qui sont à nouveau à l'œuvre dans l'entre-deux-guerres parce que la révolution bolchevique aurait donné un nouvel élan à l'esprit révolutionnaire. Dans le cas de Jacques Bainville, c'est l'idée que la nation française aurait toujours été menacée par deux adversaires, un peu de manière permanente, les Allemands et les Germains devenus Allemands et les Anglais, donc que la nation aurait été construite par les rois. En fait, on retrouve toujours des thèses comme ça très claires, très lisibles, soutenues par une vraie érudition, qui est arsenalisé hein, pour défendre ses idées, et une plume limpide. À la différence de Maurras, qui est assez objectivement illisible, Gaxot, Bainville sont des auteurs extrêmement faciles à lire.
C'est toute cette armature d'historien, enfin, qui crée quand même l'Institut d'Action française, l'Institut d'enseignement supérieur contre-révolutionnaire, et qui publie des ouvrages populaires. On parle toujours de la gauche gramsciste, l'idée que la gauche aurait gagné le combat de la culture dans les 60-70. Mais en fait, dans ces années-là, on a l'impression que la droite, l'extrême droite, française en tout cas, gagne la guerre culturelle, au moins dans les années 30.
Complètement. Alors, j'ai pas cité Gramsci dans le livre, mais que c'est vrai que là, en plus, j'ai écrit ce livre à un moment où cette question du gramschisme de droite, de gauche a ressurgi dans le débat public, hein, avec la manif pour tous et tout. Ça a été un moment où Gramsci a été beaucoup relu. J'avais un peu l'impression d'enfoncer une porte ouverte en le citant, mais c'est certain que dans l'entre-deux-guerres, il y a un moment où on voit la culture contre-révolutionnaire s'imposer à la droite et plus généralement s'imposer en fait sur le marché éditorial en France. C'est-à-dire qu'il y a une vraie domination de ces auteurs, de ces thèses qui sont reprises dans des partis de droite qui sont théoriquement républicains et qui en fait sont dans une phase, notamment la Fédération républicaine qui est le grand parti conservateur de l'entre-deux-guerres qui évolue vers l'extrême droite au cours des années 1930. Et je pense que c'est indissociable de ce phénomène éditorial qui est porté par l'Action française, Fayard, des hebdomadaires comme Je suis partout, comme Candide, comme Gringoire aussi, que j'évoque un petit peu moins, mais qui est aussi présent dans cette nébuleuse.
Est présent. Votre thèse va contre l'idée de Marcel Gauchet et d'autres qui disent qu'à partir des années 1880, le royalisme disparaît. Ce que vous dites, c'est qu'il ne disparaît pas, qu'il change, qu'il devient culturel, vraiment, en fait. Et que finalement, à partir des années 30, il va y avoir une sorte d'alliance. En 31, Pierre de Nolhac, donc le sauveur auto-institué de Versailles, qui est décrit comme fasciste par l'hebdomadaire Gringoire, répond « L'idée me réjouit, ça me rajeunit ». Donc il va y avoir vraiment... les royalistes ont une relation complexe avec le fascisme, mais globalement, c'est aussi Gaxot qui va inventer la notion de révolution nationale dès 1934, donc bien avant Pétain, en fait.
Alors il la reprend à Georges Valois, mais il lui redonne un écho. Mais Georges Valois, qui lui aussi s'est écrit comme fasciste, et est aussi passé par l'Action française, même si c'est brouillé avec Maurras à un moment. Alors je dirais, les royalistes ont une relation ambivalente avec le fascisme, les contre-révolutionnaires qui englobent en fait plus de gens, puisqu'il y a aussi des gens qui acceptent le principe du régime républicain en détestant les origines. Moi, j'ai été frappé par l'empreinte de la contre-révolution dans le cas du fascisme français. J'irai pas discuter du nazisme ou du fascisme allemand, même si j'ai mon idée là-dessus, mais parce que c'est des débats qui se configurent différemment. Mais dans le cas de la France, je trouve que c'est plus qu'une imprégnation contre-révolutionnaire du fascisme français, c'est que d'un point de vue presque généalogique dans la manière dont les fascistes français se construisent, l'empreinte de la contre-révolution est décisive en fait. Et il y a chez beaucoup de fascistes français, on parlait de la rédaction de Je suis partout, c'est-à-dire des hommes comme Robert Brasillac, Lucien Rebatet, etc., quasiment tous sont passés par l'Action française, se sont éloignés de l'Action française, ce qu'ils estimaient que l'Action française n'était pas capable de réaliser le programme contre-révolutionnaire qu'elle défendait, qu'il n'y avait pas notamment la volonté en fait d'aller au bout, de faire ce coup de force dont parlait Maurras. Et donc le 6 février 1934, de ce point de vue-là, marque une vraie rupture parce que Maurras est vu comme étant trop incapable de passer à l'acte. Et donc le fascisme est vu comme étant le courant politique qui va permettre de réaliser pleinement la contre-révolution. Et ça, de ce point de vue-là, je pense que c'est absolument frappant, et c'est ce que j'essaie de démontrer justement que la contre-révolution, même si elle n'existait plus vraiment dans l'ordre politique en tant que un parti légitimiste constitué comme tel, eh bien, elle existait toujours dans l'ordre culturel et qu'on ne comprenait pas en fait le régime de Vichy, qui est l'aboutissement de ce livre, sans comprendre la permanence de la contre-révolution sous la Troisième République.
Voilà, Le Roi, une autre histoire de la droite pour comprendre la France et pour comprendre le moment aussi qu'on est, enfin, en toile de fond du moment qu'on est en train de vivre aujourd'hui, par Baptiste Roger Lacan. C'était Signe des temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Aurélie Marseille, avec à la technique Jean-Guilain Meige et à la réalisation Luc-Jean Reynaud. Empty the catapult, hatred on the horizon must be assumed for the ascension. Unlock the padlock, swallow the key. For any prisoners, there won't be any need. Hatred on the horizon must be assumed for the ascension. Sit down and wait. Wait on the throne for it to take and for the beast to come. Devils, devils and angels, I'm gonna give myself away.